Bonjour et bienvenue dans Venue d'Orient, le podcast des voix de la diaspora maghrébine et moyenne orientale. Je suis Nawal Alamouchi et cette semaine, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Isabelle Saya Bodis. Isabelle est une ancienne journaliste, écrivaine et directrice de la maison d'édition Orient Édition. Elle consacre sa vie à faire découvrir les grandes figures et les penseurs et les auteurs du monde arabe. Née d'une mère pied noir, d'un père algérien, elle a grandi entre deux cultures qui ont profondément façonné son regard sur le monde et son engagement intellectuel. Dans cet épisode, elle revient sur son parcours singulier, sur son héritage familial et sa volonté constante de bâtir des ponts entre les cultures et les mémoires. Entretien avec Isabelle Saya Bodis. Bonjour.
Bonjour.
Isabelle, vous êtes née d'une mère pied noir, d'un père algérien. Quand vous repensez à votre enfance, comment est-ce que cette double filiation vous a construite ?
Moi, j'ai grandi pendant l'époque de la guerre. Alors, ce qui me revient le plus de mon enfance, c'est peut-être pas la double culture, mais malheureusement, c'est la guerre. C'est-à-dire la violence. Mais racheté par aussi la douceur des Algériens, de ce qu'on m'a appris pour ou me calmer ou me faire du bien. Ma première enfance, je ne l'ai pas vécue comme un tiraillement. Je savais que j'avais une famille pied noir et une famille arabe, mais je ne l'ai pas du tout vécue comme ça. Bon, j'entendais parler arabe et français, je mangeais des deux cuisines. C'est la guerre qui prédomine.
La guerre qui prédominait votre enfance, est-ce qu'on peut revenir un peu plus sur ce contexte de guerre ?
Les enfants qui ont vécu dans la guerre, ça reste des premiers souvenirs, quoi. C'est le bruit, c'est l'odeur de la guerre, c'est les affrontements qu'on peut voir, c'est l'école qui est coupée, c'est ces tensions qu'on sent, c'est quelque chose dont on se souvient toute sa vie, qui reste gravé en vous.
Et cette relation entre un homme algérien et une femme pied noir, est-ce que c'était quelque chose d'exceptionnel à cette époque ?
Tout à fait. Je loue leur courage à tous les deux parce qu'ils ont osé casser cette interdiction tacite, quoi. Et en plus, pendant une période où leurs deux communautés s'affrontaient. Je les remercie pour leur courage. Et c'était quelque chose de très peu fréquent. Je pense que pendant toute la colonisation française, il y a eu un millier de mariages mixtes. Alors après, évidemment, et Dieu merci, tout ça continue d'être en augmentation. Mais là, c'était en plus au paroxysme des tensions intracommunautaires. Donc évidemment, ça ne se faisait pas. Ils se sont mariés en prenant des témoins dans la rue. Donc pour vous dire que les deux familles dénonçaient et méprisaient cette union.
Donc une enfance en Algérie, vous l'avez dit, dans un contexte de guerre. Quand est-ce que vous avez quitté l'Algérie pour rejoindre la France ?
Alors, j'ai quitté l'Algérie. Bien sûr, la guerre était finie, donc j'ai connu l'indépendance, les premières années d'indépendance algérienne. Et je suis rentrée en France en 68. Et là, j'ai eu un choc très brutal parce que je suis passée de l'Algérie à un pensionnat catholique dans une petite ville française. Donc là, le choc a été très violent. Mais Dieu merci, nous étions deux sœurs, deux filles, et je pense que c'est ce qui nous a sauvés, parce que là, c'était très brutal.
Ça a été brutal de partir ?
De partir, de changer de décor, d'ambiance, et de rentrer dans un internat catholique. Alors dans les choses formidables qu'ont choisi mes parents, ils ont considéré que comme on venait de deux cultures, voire deux religions, ça serait bien qu'on apprenne les deux. Ils nous ont mis un Coran et un Nouveau Testament, mais évidemment, l'éducation catholique devait nous aider aussi à choisir.
Et donc justement, ce choix, vous, ça n'a pas été un tiraillement aussi pour vous ?
Je pense que c'était un tiraillement parce que le tiraillement de l'exil aussi, je l'ai plus senti comme ça qu'un tiraillement identitaire, quoi. Je savais que je venais de deux mondes. Oui, j'avais un côté révolté, mais le fait d'apprendre deux choses, je me disais que c'était aussi enrichissant.
C'est quoi qui vous révoltait le plus ? C'est le fait que l'union, par exemple, entre vos deux parents n'était pas acceptée ?
Ben, révolté, c'est peut-être quand on vous arrache de votre pays. C'est ça la révolte, peut-être. C'est le déracinement, peut-être, qui vous donne un sentiment d'injustice. Révolte, c'est peut-être un mot fort, mais j'étais arrachée.
Et vous aviez quel âge ?
J'avais 10 ans. Et puis la période de la guerre, le début de l'indépendance, donc c'était un nouveau régime qui s'installait. Tout ça était quand même très fort au niveau politique. J'ai été très empreinte aussi des conséquences de la politique sur la vie privée, puisque en fait ma vie a été quand même très dictée par la politique.
Et donc votre parcours vous a mené par la suite vers le journalisme,
oui.
Vers l'édition.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de raconter et transmettre les histoires des autres ?
J'étais auteur, je travaille depuis tout le temps sur ce monde que j'ai ouvert le plus possible. Par exemple, j'ai fait un livre sur les pieds noirs, parce que je pensais que cette communauté qui avait vécu 130 ans avait pris de l'autre aussi, et qu'elle avait mauvaise réputation. Et puis ma mère étant pied noir, j'ai fait aussi ce travail pour lui rendre hommage. Puis après, j'ai travaillé sur l'Orient, les grandes figures, beaucoup sur les femmes, beaucoup sur le soufisme, parce que ma famille arabe est d'origine soufie. Et en fait, je suis devenue éditrice quand un éditeur a refusé un livre que j'adorais et que j'avais fait avec un grand soufi calligraphe. Et il m'a dit, alors là, tu vas trop loin. Et je me suis dit, si je vais trop loin, donc ça veut dire qu'il faut que j'y aille toute seule. Je ne prends pas un risque insensé de monter ma maison d'édition et de publier ce que j'ai envie. Donc en fait, j'ai monté ma maison d'édition sur un refus d'un éditeur. Peut-être je dois le remercier.
Comment ça a été en tout cas de monter une maison d'édition ?
Ça a été un peu difficile. J'ai travaillé avec un vieil ami éditeur qui m'a un peu appris. Comme j'avais déjà travaillé en tant qu'auteur, ma matière était facile puisque je connaissais déjà, je savais ce que je pouvais mettre en avant. En général, j'essaye de mettre en avant tout ce que l'actualité, souvent malheureuse, évidemment, ne dit pas. Pour dire le bon, le beau, le bien.
De faire découvrir des artistes, des penseurs du monde arabe.
Souvent des femmes, parce que je trouve que les femmes sont quand même les trop silencieuses, les trop invisibles. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les femmes. Et puis, si vous voulez, j'avais mon background. Donc pour moi, ça semblait évident. Et puis je trouve qu'il est indispensable, enfin je l'ai senti comme ça, de rendre aussi à ce qu'une civilisation vous a donné. Je crois que je fais des livres pour dire merci et aussi pour dire, comme je vis en France, dire aussi aux Français, regardez, votre regard sur ce monde est peut-être un peu faux. J'essaye de leur montrer des choses qu'ils ne connaissent pas et qui sont évidemment extrêmement positives.
Mmh. Est-ce que vous aviez justement le sentiment que ces personnes-là, ces artistes, ces écrivains, étaient insuffisamment représentés dans le paysage culturel français ?
Tout à fait. Mais si vous voulez, je n'ai pas travaillé que sur le présent. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les grands textes, les fondamentaux. Alors j'ai été très aidée par des grands noms de la littérature arabo-musulmane. J'ai eu la chance de beaucoup travailler avec André Michel, qui était le grand orientaliste français. J'ai beaucoup travaillé sur Les Mille et Une Nuits, sur Oum Kalsoum, sur des personnages, des œuvres qui sont universelles et que l'Occident ne connaît pas bien. C'est-à-dire le Kalila Wadimna, qui sont des fables animalières, ont inspiré La Fontaine, mais simplement, qui le dit ? Et si vous voulez, je trouve que c'est dommage de ne pas se servir de ces points de jonction qui rapprochent. Parce que si on dit « La Fontaine s'est inspirée d'un grand auteur arabe », évidemment, ça rapproche. Si on vous dit que l'invention du théâtre est peut-être due à un arabe, ça rapproche. Si on vous dit que le féminisme absolu, c'est Scheherazade, ça rapproche. Et je pense que si on donnait beaucoup plus de points de concorde, on se sentirait bien plus proche de l'autre.
Et votre maison d'édition donc s'appelle Orient Édition au pluriel.
Au pluriel.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Alors pourquoi le S ? Parce que je pense que l'Orient est à la fois unique mais multiple et que je vois de grandes concordances entre tous les Orients. Si vous voulez, je prends l'exemple des Mille et Une Nuits. C'est un texte qui est parti de l'Inde pour arriver en Perse, puis au Maghreb. Donc c'est un texte qui a cheminé dans tous les Orients. Et ces Orients, si vous voulez, il y a beaucoup de choses en commun. Et puis je prends aussi, par exemple, les trois monothéismes qui viennent de ces terres d'Orient, où il y a beaucoup de similitudes. qu'on ne dit pas, mais aussi beaucoup de choses différentes. Donc je trouve que le S est intéressant pour moi.
Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez consacré une biographie à Umm Kulthum. Qu'est-ce qui vous fascine chez cette femme et qui continue des décennies après sa disparition de rassembler des millions de personnes?
Ma démarche, là, ça a été une démarche de journaliste. Il n'y avait aucun ouvrage sérieux de référence sur Umm Kulthum. C'était dans les années 83-85. Et mon mari avait couvert, mon mari qui était Dominique Baudis et qui était auparavant journaliste au Proche-Orient, avait couvert son enterrement. Et à un moment, je l'ai suivi dans sa vie publique et politique et je ne voulais pas rester sans travailler. Donc je voulais trouver un travail long qui me tienne bien. Et lui, en plus, m'a lancé un défi puisqu'il m'a dit « il n'y a rien eu sur Umm Kulthum, vas-y ». Donc c'était un défi. Et puis après, j'ai énormément travaillé sur cette biographie. Avec cette femme, on voit toutes les séquences de l'Égypte, voire du monde arabe. C'est-à-dire qu'on voit le féminisme arabe, la musique arabe, la politique arabe, l'unité arabe, le cinéma, le début du cinéma. Et si vous voulez, elle a tellement de facettes que c'est pour ça que presque 100 ans après sa naissance, elle reste unique et elle reste un guide parce qu'elle a beaucoup aidé, poussé les femmes et tout le monde arabe à travailler, à s'unir. Donc c'est pour ça qu'elle, d'après moi, elle est exemplaire, plus sa voix magique qui reste dans toutes les oreilles.
Et on peut le dire aujourd'hui, votre récit autobiographique, c'est une référence.
Oui, oui, et je suis très fière parce qu'elle a été traduite en arabe par le Centre National de Traduction. Je suis très fière d'avoir fait ce travail que j'ai trouvé un peu long et difficile, mais je suis très fière de l'avoir fait.
À travers vos livres, à travers votre travail d'éditrice, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de mener un combat contre certains clichés sur le monde arabe ?
Oui, je me dis que toutes les petites pierres font un chemin. Je pense qu'on a une responsabilité quand on est d'origine étrangère, de rendre, de travailler, d'informer, surtout quand on est dans un pays d'accueil. Je pense souvent que si tous les gens d'origine étrangère essayaient de faire quelque chose pour leur pays d'origine et leur pays d'intégration, je pense que les choses iraient beaucoup mieux.
Après toutes ces années à faire dialoguer les cultures, qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir aujourd'hui ?
Alors, ce qui me donne de l'espoir, c'est le sens intrinsèque de l'homme. Dans mes guides, il y a eu André Michel. André Michel qui a écrit 80 livres et qui a travaillé pendant 70 ans sur ce monde arabe. Et je trouve que sa réflexion, c'est une des choses qui m'éclaire le plus et qui me rend le plus optimiste. Il me dit, en fait, j'ai étudié ce monde pour savoir si l'être humain, le fondement de l'être humain était différent. Et au bout de 70 ans de travail, évidemment, l'être humain est semblable. Et je crois à ça.
Question que je pose à tous mes invités. Votre double culture, aujourd'hui, pour vous, est-ce que c'est une richesse ou c'est un obstacle ?
C'est une richesse. Évidemment, c'est une richesse. Je me sens bien des deux côtés. J'aime les deux côtés. Et nous sommes si nombreux. Nous sommes doubles, donc plus ouverts, plus adaptables. Évidemment, c'est une richesse.
Votre mère est pied noir, votre père est algérien. Vous avez écrit un ouvrage il y a plusieurs années là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, encore en 2026, même durant ces précédentes années, c'était quelque chose de difficile à assumer pour vous ou pas du tout ?
Mes origines pied noir ?
Exactement.
Oui, peut-être elles ont été très caricaturées et j'ai fait ce travail et je me suis rendu compte combien la caricature était toujours excessive. Ces gens ont aimé leur pays, le pays où ils ont vécu. Ils ont aimé, donc ils n'ont pas pris la mesure de ce plaquement de population et des populations indigènes qui avaient plus de droits qu'eux. Mais je pense qu'ils ont profondément aimé et ils ont été exilés. J'ai beaucoup de sympathie pour les exilés parce que je trouve que la terre de son enfance, les pieds noirs ont une terre d'enfance qu'ils ont aimée aussi. Alors peut-être ils n'ont pas vu la réalité en face, mais ils l'ont aimé et ils ont été peut-être pas très bien accueillis et ils ont été très courageux. C'est que des notions que j'aime beaucoup. C'est des notions d'effort. Et je trouve que les exilés ont plusieurs racines en eux et que c'est très joli. et que en plus avec deux racines, deux regards, on voit mieux les choses. Donc je pense que les pieds noirs, par exemple, ont beaucoup apporté à la France, comme je suis sûre que toute l'immigration apporte à la France. On a besoin d'eux. Et en plus, ils ont un regard, ils ont un autre regard. Et je trouve qu'on devrait se servir de cette Europe, autre regard aussi.
Et aujourd'hui, quel est votre rapport à l'Algérie ?
C'est ma terre natale que j'aime profondément, que je suis profondément attachée, qui m'a tellement donné et auquel j'essaye de rendre mon travail, mon admiration. Je retourne, c'est ma terre natale. C'est là où sont enterrés tous les miens. Vous savez, dans les exilés, il y a souvent ce problème aussi de...
Où est-ce qu'on enterre aussi ses proches ?
Où est-ce qu'on enterre ? Et c'est important aussi de dire où est-ce que seront les souvenirs de mes ancêtres sont en Algérie.
Avec du recul donc sur votre carrière, sur votre parcours, je le rappelle, vous êtes autrice, vous avez votre propre maison d'édition. Est-ce que vous en êtes fière ?
Bien sûr, bien sûr. Je suis fière de mettre ma petite pierre à l'édifice. Et je crois beaucoup à ça. Je crois qu'on a un devoir de contribuer à faire mieux connaître l'autre et qui fait partie de vous. Et puis je suis fière de voir le nombre de mariages mixtes en augmentation. Je suis fière des mélanges.
Si vous pouviez adresser un message à la petite Isabelle que vous étiez, mais aussi aux jeunes aujourd'hui qui grandissent entre plusieurs cultures, que leur diriez-vous ?
Ben, d'essayer d'aimer. Bon, je pense que aimer, c'est facile, parce que c'est en eux, mais de connaître aussi. Je pense que beaucoup de problèmes viennent de problèmes d'ignorance. Et je pense que d'un côté comme de l'autre, on ne connaît pas l'histoire de l'autre. Donc d'apprendre, de connaître.
De se reconnecter.
Oui.
Merci.
Merci beaucoup,
beaucoup
à vous.
Isabelle Sayabodi, d'avoir pris le temps de répondre. Merci.
Merci.
Vous venez d'écouter Venue d'Orient, un épisode avec Isabelle Sayabodi, directrice de la maison d'édition Orient Édition. C'était Nawel Elamouchi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.